Mon histoire francophone en Colombie-Britannique, sur les traces de ceux et celles qui ont permis à notre langue et à notre culture de survivre. Merci aux élèves de 6e année de Madame Maude, Katrina et Carissa.
Bonjour. Mon nom est Kanda Vertefeuille. Vous pouvez m'appeler Madame Kanda. Le cours d'histoire cette année sera des plus intéressants. Comme vous le savez sans doute, l'école a fait construire un laboratoire d'histoire. Oui, tu as une question? D'abord, quel est ton nom?
Émilie Morel. Madame, on a entendu parler du labo d'histoire, mais à quoi ça sert un labo d'histoire? Rendu en 12e année, on a déjà tous fait de la recherche. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce labo-là? Des nouveaux ordis?
Très drôle. Non, pas de nouveaux ordis, bien que l'école se soit aussi dotée des nouveaux modèles. Non, on a bien fait ça. On a réussi à garder le secret. Et le labo ne sera accessible que pour les classes de 12e, sous la supervision d'un professeur. Du calme. Laissez-moi terminer avant de vous énerver. Parlons d'abord du travail que vous aurez à produire d'ici la fin de la session. Cette année, vous aurez à préparer une présentation sur un ou des personnages francophones, des individus ou des groupes qui feront partie de l'histoire francophone de la Colombie-Britannique. Ces hommes et ces femmes qui ont gardé la francophonie vivante, qui ont défendu nos droits et qui se sont assurés que notre identité soit soutenue par les institutions. Pour les élèves qui le désireront, vous aurez aussi la possibilité de tourner votre travail en une dramatique. J'ai déjà parlé avec vos professeurs, ça comptera pour votre travail de session du cours de français. Edmé, bien contente de te retrouver dans ma classe cette année. Une question?
Est-ce qu'on peut choisir qui on veut?
Oui, à condition que ce ne soit pas un personnage ou un regroupement sur lequel tu as déjà travaillé. J'offre une liste de plusieurs noms dont vous pourrez choisir. Tiens, aide-moi à distribuer les cahiers.
Mettons que ce soit un francophone qui n'a pas fait d'histoire, qui ne s'est pas démarqué par son implication dans la défense des droits, mais qui devrait quand même avoir sa place dans l'histoire pour ses talents, ou pour un accomplissement quelconque, ou juste parce qu'il, elle, a vécu en BC.
À quoi tu penses? Peux-tu préciser ta pensée?
Bien. Je pense aux artistes, par exemple. Ils ne se sont pas nécessairement battus par la francophonie, mais ce sont des gens dont on peut être fier, des chanteurs, peintre ou écrivain francophone.
Oui, en effet. Je n'avais pas pensé à eux. Bonne idée. Alors, on rajoute ça à la liste. Merci Edmé. Très pertinent.
Mais madame, il n'y a rien dans le cahier. Il n'y a même pas de livre.
Merci Edmé. Silence, s'il vous plaît, silence. En effet, il n'y a que des pages blanches. Ce sera votre cahier de travail. Il n'y a rien d'écrit, car tout est à écrire. Votre travail se fera sous la forme d'un journal de bord. Vous pourrez y peindre le personnage de votre choix, physiquement et psychologiquement. Vous pourrez choisir d'y décrire aussi l'époque à laquelle il ou elle vivait, ainsi que la région de la Colombie-Britannique où se passe ce que vous choisirez de raconter. Géographie, vie politique, mode, nourriture, etc. Parlez du passé de votre personnage, de ce qu'il a amené à se distinguer parmi ses compatriotes de l'époque. Si vous désirez une organisation communautaire, parlez de son histoire, de ses fondateurs. Enfin, donnez tous les détails qui, vous croyez, vous permettront de mieux voir ce que vous aurez vu.
Qu'en aurez-vous? Il n'y a pas toujours des images sur les sites ou dans les livres. Comment est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on peut coller des photos dans notre cahier?
En effet, les méthodes de recherche traditionnelles ne donnent pas toujours des résultats visuels probants. Eh oui, vous pourrez y coller des images. J'en viens donc à notre laboratoire d'histoire et je vous demande de rester calme. D'abord, quelques consignes. En aucun cas, vous ne devez entrer dans le laboratoire ou utiliser les appareils sans ma supervision ou celle d'un assistant de labo. D'ailleurs, le labo est verrouillé en tout temps. Laissez vos choses dans la classe. Nous allons au labo maintenant. C'est la façon la plus simple de vous expliquer. Asseyez-vous ou restez calme, je vais tout expliquer.
Ça sert à quoi les casques?
C'est quoi tous ces fils?
C'est de la réalité virtuelle, il n'y a rien de nouveau.
C'est n'importe quoi.
Ouais, pourquoi la secret?
Du calme. Oui, c'est de la réalité virtuelle. Mais pas mal plus réalité que ce que vous croyez. Voilà, je vous présente le chronotupos, du grec ancien qui signifie l'empreinte du temps. Il s'agit d'un appareil qui nous permet de projeter notre pensée, notre conscience dans le passé, afin d'y être témoin d'événements sans toutefois être capable d'y participer. Silence ! À la prochaine période, vous recevrez des instructions précises de la part de l'assistant de laboratoire qui a lui-même reçu une formation de plusieurs semaines à la maison mère du fabricant sur Haïdagwaï. Mais d'ici là, je vous demanderai de faire des recherches pour trouver un ou des personnages dont vous aimeriez raconter l'histoire.
Est-ce qu'il y a une période particulière que l'on doit couvrir ?
Entre la fin des années 1830 jusqu'à aujourd'hui, cela vous donne un peu plus de 100 ans. Tous ceux et celles qui ont fait l'histoire francophone ont été importants dans la survie de la langue ici en Colombie-Britannique. On en connaît plus sur les personnages politiques que sur les autres, et c'est normal. Ils ont fait la première page des journaux de l'époque, ont été l'objet d'études de la part des historiens, et ont laissé leur marque dans l'histoire. Mais d'autres, des centaines d'autres, des gens ordinaires, sans aspiration de gloire ou soutenus, nourris et défendus la cause francophone à travers la courte histoire de la Colombie-Britannique, et vous pouvez, devez aussi parler d'eux.
Comment sait-on que ça se fonctionne?
Ouais, est-ce qu'on ne peut pas rester prisonnier?
Est-ce qu'il y a des gens, des dangers?
Non, il n'y a aucun danger. Vous pouvez bien imaginer que la compagnie a testé et retesté la machine des milliers de fois. L'Agence spatiale canadienne et l'Institut Marie-Esther Blondin pour l'avancement des sciences ont donné leur aval. Je l'ai moi-même essayé.
Wow.
Oh, comment c'était? Qu'est-ce que vous avez vu? Ça marche vraiment?
Oui, ça fonctionne. Et j'ai en plus profité d'une offre de la radio communautaire francophone CILS-FM, qui, comme vous le savez, est toujours à la recherche de nouvelles émissions. Grâce à la participation de leurs bénévoles, nous avons enregistré une petite démo pour mieux vous faire comprendre ce que j'attends de vous.
Est-ce qu'on peut l'entendre ?
Je n'aime pas les micros, moi. Est-ce qu'on est obligé ?
Oui, vous allez l'entendre. C'est ce qu'on fera pour le reste de la période. Et non, vous n'êtes pas obligé d'enregistrer. Les bénévoles de la radio ainsi que les étudiants d'autres écoles se sont portés volontaires pour le faire. Votre travail consiste en la recherche et l'écriture de votre journal de voyage, de votre journal de bord. Si vous le voulez, vous pouvez jumeler le travail de français, comme je l'ai déjà mentionné, en écrivant une dramatique. Le reste, je m'en occupe. Alors on y va? Vous êtes prêts à écouter la démo?
Oui, ouais. Ça va être bien, ouais. J'en suis sûre, ça va
c'est
nous donner.
C'est tout ce que tu vas choisir? Non,
si
moi je sais pas.
J'entends le moulin, tac, j'entends le moulin, tic-tic-tac, 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 j'entends le moulin, tac, mon père a fait bâtir une maison. J'entends le moulin, tac, je fais bâtir à trois pignons, tic tic, tic tac. Oh, j'entends le moulin, tic tic tac, j'entends le moulin, tac, j'entends le moulin, tic tic tac, j'entends le moulin, tac, je fais bâtir à trois pignons.
j'apprends, tic, il l'apprend, tic, 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 tac, j'entends le moulin, tic, tic, tac, j'entends le moulin, tac, j'entends le moulin, tic, tic, tac, j'entends le moulin, tac, son trochard, tic, il l'apprend, j'entends le moulin, tac, mais le plus jeune, c'est mon mignon, tic, 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 tac, j'entends le moulin, tic, tic, tac, j'entends le moulin. J'entends le moulin, tic tic tac, j'entends le moulin, tac.
Deux hommes sont Médard Chouard des Grosseillers et son beau-frère Pierre Esprit Radisson. Nous les rencontrons alors qu'ils reviennent de leur expédition au lac supérieur et Michigan. Leur caravane consiste en une centaine de canots remplis de fourrures. Des Grosseillers est né en France en 1618 et mort à Trois-Rivières en 1696. Il avait presque 80 ans, ce qui à l'époque était un âge plus que vénérable. Si on considère que pendant plusieurs années, il a été un explorateur et un coureur des bois, c'est encore plus exceptionnel. Comment est-il devenu explorateur? À son arrivée en Nouvelle-France, en 1634, à l'âge de 16 ans, il a été reçu comme donné par les missionnaires jésuites de Sainte-Marie au pays des Hurons. La mission du donné consistait à se consacrer à Dieu en offrant sa vie et son service au travail missionnaire parmi les Hurons. En contrepartie, il bénéficiait du support et de la fraternité des autres membres de la congrégation jésuite.
Bon, nous voilà arrivés. Je vais ramasser le bois pour un petit feu. On a de quoi à manger?
Il nous reste encore de l'avoine et du lard. On va se faire un brouet. On a encore des bleuets secs?
Oh, je pense bien que oui. Les Algonquins nous en ont donné des masses. Penses-tu qu'on aura un bon prix pour nos pelleteries?
Ils sont de bonne qualité. On en a beaucoup. On a du loup, du vison, du castor. Tu sais, comme la cour du roi soleil aime le castor et la reine, le vison.
Oh, je me demande si on pourrait pas en ramener plus l'an prochain. On a une bonne équipe. Avec les Hurons et les François, on pourrait en ramener des milliers d'autres.
C'est une bonne idée. On pourra même retourner au nord, à la mer Salée. C'est un pays si riche en animaux. Il fait froid en hiver, si haut dans le pays. C'est pas surprenant que les animaux aient une si belle fourrure.
Avec l'argent qu'on gagnera avec ce voyage-ci, on pourra facilement organiser celui de l'an prochain. Faudra partir tôt après le printemps. Sinon, on risque d'être pris dans les glaces et de ne pas pouvoir revenir avant un an.
Ma sœur ne me pardonnerait pas de te garder loin d'elle trop longtemps. Mais bonne idée, on devrait essayer de garder les mêmes guides que ce voyage-ci. Les femmes Hurones sont les meilleures au pistage.
Le brouet est prêt? J'ai une faim de loup.
Pierre Esprit Radisson est un personnage digne d'un roman d'aventure.
Né en France autour de 1636, on ne connaît pas l'année avec certitude, car les registres des naissances sont brûlés dans le grand incendie de Paris de 1871. Et il vient de Nouvelle-France à l'âge de 10 ans. 5 ans plus tard, il est capturé lors d'un raid iroquois et amené dans un village là où est maintenant la ville de New York. Il fut adopté par ses ravisseurs, apprit leur langue et leurs coutumes durant les 2 années de son séjour forcé chez eux. Il se sauve mais est de nouveau capturé et torturé. Il s'évade à nouveau et rejoint Fort Orange, où il devient interprété pour les Hollandais. À l'âge de 18 ans, il vogue vers Amsterdam et il revient quelques mois plus tard, vers les Trois-Rivières. En 1657, il se joint à un groupe de missionnaires dont le père Paul Ragenot, qui se rend en terre iroquoise, toujours dans la région de New York actuelle. Là, grâce à sa connaissance de la langue et de la culture des Iroquois, et à l'aide d'un stratagème ingénieux, il permet à son groupe de s'échapper du piège qui leur était tendu par les Iroquois.
Monsieur, vous nous ramenez un bon butin, à ce qu'on dit.
Monsieur de Voyer d'Argenson, cher gouverneur, merci de nous recevoir. Nous avons une belle surprise, nous revenons avec 100 canots pleins de pelleteries. Le roi va être content dans notre trésor. Ce sont les plus belles fourrures, les plus fournies, les plus douces que vous n'avez jamais vues, sire. Mais venez voir dehors, on en a ramené quelques-unes jusqu'à votre résidence. 100 canots que je vous dis.
Je vous crois, mais monsieur... Qui vous avait délivré votre permis?
Notre permis?
À ce que je sache, vous étiez sur la terre de Nouvelle-France lorsque vous avez acquis ces pots. Vous auriez dû avoir un permis. Donc, qui vous a délivré votre permis? Ce n'est sûrement pas moi, je m'en souviendrai.
Mais, messire, nous étions dans le Grand Nord. À la vue de tant de richesses, nous n'avons pensé qu'à en faire profiter la Nouvelle-France et son roi. Serions-nous revenus chercher un permis? Nous aurions perdu tout près de 2 ans.
Suffit. Vous n'êtes pas au-dessus des lois, messieurs. On perd un permis, il vous fallait. Je vous confisque tout, les canots et les fourrures, tout. Et en plus, vous devrez payer une amende salée.
Mais c'est insensé. Vous saisissez notre bien. Savez-vous comment il a été difficile de ramener cette cargaison jusqu'à Québec? Les heures de portage faites en région difficile, les animaux sauvages que nous avons dû combattre, les dangers rencontrés. Nous sommes venus vous voir dès notre arrivée pour vous faire part de la bonne nouvelle. Il y a un territoire inexploré où ces bêtes à poils abondent. Nous pouvons remplir à nouveau les coffres de la Nouvelle-France.
J'ai dit suffit. Ne me poussez pas à bout, monsieur Alisson. Vos manières sont le reflet de votre éducation parmi les sauvages.
Pierre, tais-toi.
Non, mais je me tairai pas, c'est du vol. Il veut les pots pour lui seul, il veut en avoir le profit.
Garde, jetez ce manant au cachot. Nous verrons bien qui détient l'autorité ici. Un mot de plus, et je vous envoie aux travaux forcés. super. Je pense que je vais m'arranger avec mon prof de français.
Je comprends pas. Je pensais qu'on devait parler des francophones qui ont fait l'histoire de la Colombie-Britannique. Radisson, des Groseilliers, c'est bien avant la Colombie-Britannique.
Oui, et c'est l'histoire de la Nouvelle-France, 1660.
C'était juste un exemple, hein, madame?
En effet, c'était un exemple. Mais des Groseilliers et Radisson ont été très importants dans la formation de la Colombie-Britannique. Quelqu'un a une idée de la raison pour laquelle j'ai choisi ces deux hommes pour introduire le sujet?
Bien, c'était des Français, des explorateurs et des coureurs des bois. Peut-être qu'ils sont venus ici.
En effet, des explorateurs, des coureurs des bois, ils sont allés jusqu'à la baie d'Hudson. Et je vous donne un indice. Qu'est-ce que la baie d'Hudson a à voir avec la Colombie-Britannique?
En fait, les deux hommes ont été de la plus haute importance pour la découverte de l'Ouest et pour le développement de la Colombie-Britannique. Comment? Voici raconté succinctement leur épopée. Après qu'ils aient perdu tout leur butin de fourrure, en plus de devoir payer une lourde amende et que Radisson ait même fait du temps en prison, les deux hommes se rendirent en France pour deux raisons. La première pour tenter de plaider auprès du roi de France, Louis XIV, afin de retrouver le fruit de leur travail, ou du moins son équivalent en argent. Et deuxièmement, pour tenter de convaincre le roi à s'engager dans un nouveau projet, la découverte et l'exploitation de la baie d'Hudson. À ce moment, la Nouvelle-France ne parvenait pas à être autonome et cette aventure drainait les ressources de la France. Les deux hommes furent déçus. Le roi donna raison au gouverneur de la Nouvelle-France de l'époque, Pierre de Voyer d'Argenson, dans sa décision de saisir leur butin, parce qu'ils ne détenaient pas les permis nécessaires et leur refusa tout remboursement. De plus, la baie d'Hudson ne l'intéressait pas. La Nouvelle-France occupait déjà un gigantesque territoire et le roi Soleil ne pensait pas que le jeu en valait la chandelle. Les deux beaux-frères, vexés par l'échec de leur démarche, changèrent d'allégeance. Ils se tournèrent vers les Anglais. De retour en Amérique, ils se rendirent à Boston, où ils rencontrèrent un officier britannique, Charles Cartwright, qui les décida à se rendre en Angleterre pour tenter d'obtenir une audience auprès du roi Charles II pour lui exposer leur projet. Sir George Carteret intercéda pour eux auprès du roi et les Anglais accueillirent avec enthousiasme les projets d'expédition à la baie d'Hudson des deux Français. Après quelques mésaventures et plusieurs tentatives, des Groseilliers atteint finalement son but. Une ligue des amis est fondée et achète les terres aux autochtones avec qui elle fait du commerce aux alentours de la baie d'Hudson. L'année suivante, des Groseilliers revient en Angleterre avec une récolte impressionnante de peaux de castor, fort en vogue à l'époque. Le prince Rupert et ses associés se laissent facilement convaincre d'investir davantage. Cette ligue obtient une charte royale le 2 mai 1670. La compagnie de la baie d'Hudson est fondée.
Et alors? La baie d'Hudson?
Hudson
Bay Company de la baie d'Hudson.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
En 1770, avant Fort Victoria.
Hudson Bay Company.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Après la chute de la Nouvelle-France en 1763, la compagnie de la baie d'Hudson a étendu son réseau de postes de traite vers le nord et vers l'ouest. Jusqu'en 1775, les Espagnols et les Anglais se partageaient les Amériques. L'Angleterre régnait sur 13 colonies, sur le territoire actuel des États-Unis et du Canada. La compagnie de la baie d'Hudson établit toute une série de forts, de postes de traite dans les colonies. Au début des années 1800, la compagnie de baie d'Hudson est entré en compétition avec la compagnie du Nord-Ouest de Montréal. Et les deux finirent par fusionner après un sanglant conflit pour le contrôle des fourrures. La grande majorité des coureurs des bois, des engagés, des voyageurs étaient des francophones. Ils ont travaillé dans tous les postes de traite, exploré le territoire, établi des contacts commerciaux et personnels avec les Premières Nations.
Et ça nous amène à la fin des années 1830.
Oui, l'histoire des coloniaux. Entre 1800 et 1830 est pleine de rebondissements, d'aventures et de découvertes. Mais puisque nous voulons surtout nous concentrer sur l'histoire des francophones, je crois que les années 1830 sont un bon départ. Je suis disponible tous les jours, entre 15h et 15h30. Si vous voulez discuter avec moi de vos personnages ou de la période que vous aimeriez découvrir, le plus tôt vous aurez arrêté votre choix, le plus probable ce sera que vous conserverez ce sujet. En effet, je ne veux pas, autant que cela soit possible, que le même personnage soit mis trois fois sur la sellette. N'oubliez pas d'aller chercher vos effets dans la salle de classe et on se revoit la semaine prochaine.
Ouais. Les explorateurs ont ouvert le monde partout à la ronde, ces hommes sans peur ont su si bien faire sur tout l'hémisphère, leur audace qui était grande nous fit de la terre offrande. Oui, ces chevaliers, je vous le dis, n'ont jamais fléchi, n'ont jamais faibli, les explorateurs. Rien ne les arrête, ni vent ni tempête, ces âmes de cœur n'ont pour fond de toile qu'un beau ciel d'étoiles. Leur rêve devant, c'est fou, et sans souci des jaloux, ils voguaient vers l'avant gaiement. Les explorateurs sur les océans allaient vaillamment, ces navigateurs par des cœurs en fait. Leur petite coquille de noix ne faisait vraiment pas le poids, et sur les flots déchaînés leur témérité fut bien démontrée. Les explorateurs toujours nous révèlent des terres nouvelles avec belle ardeur, rejettent la frayeur, refusent toute peur, des aventures par milliers pour rendre ce monde pas.
Recherche, texte et montage, Marie-Hélène Bourret. Cette émission est une production de CILS-FM 107,9 au cadran, la seule radio communautaire francophone à l'ouest des Rocheuses, et est rendue possible grâce à la participation de Patrimoine canadien.
Entre la rivière et le bois,
entre la rivière et le bois.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles de CILS-FM qui ont rendu possible l'enregistrement des dramatiques. Merci.
La belle s'est endormie, gaiement maintenant.
La belle s'est endormie, ma Louison.